La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez RMC.
Avec Kevin Diaz, avec Ricardo Patti et David Guzman, on est ensemble jusqu'à 22h en programme de Génération After, notamment Lyon, Marseille, après la victoire en Coupe Gambardella. Est-ce un espoir pour la jeunesse marseillaise? Tiens, Romain Canuti sera avec nous, hein, notre ami de l'After et journaliste au Fossé. Hein. D'abord Paris, on a commencé avec le PSG qui fait donc un doublé. Du mal à dire triplé, moi. Quand on parle trophée des champions, même si Ricardo, il va dire, mais si, tout se prend.
Non.
Par saison, pour moi, 90% des joueurs me disent, faut respecter les trophées.
Non, mais pas le. Tu peux pas dire, t'as fait un triplé.
Il faut le gagner, ce match. Ils l'ont gagné. Ils ont le mérite de jouer ce trophée.
On reste doublé.
Ils ont gagné un match amical de pré-saison qui s'appelle le trophée des champions. Voilà.
Saison réussie ou pas, beaucoup d'avis divergents par rapport au vôtre. Vous êtes quasiment tous d'accord autour de la table. Vous dites que la saison est réussie, pas marquante selon David, mais réussie. Beaucoup d'avis divergents. Showtimer sur le chat de la chaîne YouTube nous dit le PSG n'est pas monté en puissance cette année, ce qui laisse des doutes sur la saison prochaine, qui se veut meilleure selon Luis Enrique. On va en débattre. D'abord, j'accueille Mickaël au 32-16. Salut Mickaël.
Bon.
Supporter du PSG, bienvenue dans Génération After.
Bah, merci de m'accueillir, c'est très gentil. Évidemment, supporter du PSG.
Alors, ton avis sur cette saison-là, comment tu l'as vécu en termes d'émotion, en termes d'évolution aussi?
Bah, en termes d'émotion, on en a eu. C'est sûr que c'est une saison, on a quand même vécu. Bah déjà au plan national, je suis assez d'accord sur le côté réussi de la saison au plan national, parce que je trouve que moi je banalise pas la Coupe de France avec le format de coupe que c'est. Je pense que la gagner est quand même important et je trouve que c'est très bien de la gagner, le championnat aussi. Maintenant sur la scène européenne, pour moi il y a quand même un échec. Cette double confrontation contre Dortmund, elle passe pas. D'avoir été éliminé. Pourquoi? Enfin, à la limite, c'est le football et Dortmund est quand même une grande équipe, mais la façon dont on a été éliminé, pour moi, ça ne passe toujours pas. Je pense qu'il y avait moyen d'obtenir cette finale de Ligue des Champions. Donc, la saison réussie, oui, sur le plan national, sur le plan européen. Pour moi, non. Et faut pas oublier que même sur les phases de poule de la Ligue des Champions, on termine avec 8 points. Lens a fini aussi avec 8 points, n'est pas qualifié. Donc, on passe de justesse. Après, il y a un meilleur tirage sur la deuxième partie, sur le tableau. C'est vrai. Moi, je le reconnais que éviter Manchester City, éviter le Bayern, éviter le Real, c'est quand même mieux. Et je pense que c'est un échec de pas aller en finale.
Tu peux même rajouter Arsenal.
Je peux rajouter même Arsenal, bien sûr. Ouais.
Non, mais après, ce que tu dis, c'est juste, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une différence entre performance et surperformance. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a réussi sa saison parce qu'ils ont performé de façon objective et de façon cohérente.
Ouais.
Mais s'ils avaient gagné la Ligue des Champions, messieurs, en ayant 8 points, en ayant 7 effectifs, en ayant Warren Zaïre-Emery, en ayant Vitinha, moi j'aime bien, mais en ayant Ruiz, aucun joueur du Paris Saint-Germain ne sont titulaires quasiment de l'autre côté du tableau, en fait, dans les 4 équipes. Je vais pas dire aucun parce que j'exagère, il y a Mbappé, il y a Dembélé qui peut jouer, mais je veux dire, il y a pas plus de 4-5 joueurs qui sont titulaires dans les autres équipes qui étaient dans l'autre tableau. Donc attention, si le Paris Saint-Germain aurait gagné la Ligue des Champions, ça aurait été historique, ça aurait été un exploit avec cette équipe. Comme si Dortmund gagne la Ligue des Champions, c'est un exploit. Mais ils ont quand même fini devant le Paris Saint-Germain dans leur groupe. Donc en fait, le PSG n'était même pas favori contre Dortmund si tu regardes les performances en Ligue des Champions. Oui, mais attends, en Ligue des Champions.
Je ne juge pas une performance, on regarde l'histoire, la grande histoire de la Ligue des Champions.
Je parle en Ligue des Champions sur la saison. Sur la saison là, en fait. Donc, en tout cas, dans leur groupe, même si le PSG a battu Dortmund, le PSG a fini derrière Dortmund. Donc, en tout cas, le Paris Saint-Germain a très bien performé et a réussi sa saison en gagnant les 2 titres nationaux et en allant en demi-finale de Coupe d'Europe. Peu importe qui ils ont rencontré, ils ont été en demi-finale. Et déjà, c'est une surperformance par rapport à l'an dernier où ils sont arrêtés en 8e. Donc, il y a un moment, je vais pas vous ressortir la phrase de Antetokounmpo, mais que ce soit dans le foot ou dans n'importe quel métier, pas parce que tu perds que c'est un échec. Ils ont perdu, mais c'est pas forcément.
Il y a surtout l'assimilation d'un nouveau style de jeu. Ils sont passés de Christophe Galtier à Luis Enrique et ça prend énormément de temps, les principes de Luis Enrique à assimiler. C'est-à-dire que On prend trois exemples en première ligue d'entraîneurs qui ont une patte très marquée, qui ont fait une révolution tactique, besoin de faire une révolution tactique. Et la première saison, elle Arteta était très, très décevante. Ouais. Arteta finit huitième. Klopp finit quatrième. Même Guardiola finit quatrième la première saison. À 15 points de Leicester. Donc, et passer de Christophe Galtier à Luis Enrique, c'est une révolution absolument totale. Donc, en fait, je pense que cette performance, on doit la remettre dans le contexte, non seulement d'un nouvel effectif, parce qu'hier, qui rentre sur le terrain, il y a trois titulaires, plus de nouveaux joueurs qui rentrent sur le terrain contre Lyon, et surtout une révolution complètement totale. On a complètement remodelé, en fait, le principe, le logiciel des joueurs. Et ça prend du temps. Et je trouve que la vraie réussite, au-delà de l'aspect comptable, au-delà de la demi-finale, elle est là. Il a réussi à emmener, à convaincre tout le monde.
Alors, on saura, Ricardo, si la saison est réussie, en fonction de la saison prochaine également. En sachant s'il y a une réelle continuité dans la première pierre qu'a posée Luis Enrique, dans l'édifice parisien qui est censé grandir dès la saison prochaine. T'es d'accord, Mickaël, ou pas?
Bah oui, je suis d'accord que c'est sûr que la saison prochaine va être importante, mais j'aimerais quand même dire quelque chose. Moi, j'ai vu dans le match hier un peu nos déboires en Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'hier on fait une grande première mi-temps avec énormément d'occasions, on marque sur deux buts où moi je trouve quand même il y a deux grosses erreurs défensives côté lyonnais, mais sinon on multiplie les occasions et on concrétise pas. Et à Dortmund, c'est ce qui nous a manqué. Moi, j'ai vu dans le match d'hier un peu ce qu'on a vu en Europe. Et ce que j'attends de plus, parce que là où je suis d'accord, c'est que cette année, on a créé vraiment un effectif, on a un groupe, on a un jeu. Et c'est vrai qu'en un an, il a fait jouer une équipe qui est solidaire les uns pour les autres. Je sais pas l'année prochaine avec le recrutement qui va être aussi important. On attend de voir l'année prochaine, mais j'attends un peu plus aussi devant le but d'être un peu plus décisif.
Merci Mickaël d'être venu au 32-16. Hein. Très bonne soirée à toi. À très vite sur RMC. C'est la journée qu'on écoute également Luis Enrique qui parlait de Kylian Mbappé forcément hier, dernière collaboration avec son numéro 9. Écoutez ce qu'il en pense. Est-il remplaçable, Luis Enrique?
Yo creo que
ça a été une chance de l'entraîner cette saison. Elle a été difficile pour lui, c'est dur de dire au revoir. Il a toujours été prêt à aider son équipe. C'est un joueur différent et qu'on ne remplace pas. C'est l'équipe qui va le remplacer. Peut-être qu'il faudra le remplacer par 4, 5, 6 joueurs. Mais le club a toujours cette ambition de tout gagner. On va essayer d'obtenir plus. On veut marquer l'histoire et cette Champions League, on la gagnera. Dans le futur, oui, on la gagnera.
Puede ser que tarde años, pero ganará Champions en el futuro sin ninguna duda.
Bon, la gagner sans Mbappé peut-être. C'est pour ça qu'on va suivre avec attention le prochain mercato. Ouais. C'est un débat qu'on va mener dans les prochaines semaines, bien sûr, avec l'actu mercato. Mais Ricardo, comment on construit sans Mbappé? Comment on remplace Mbappé, si c'est une question?
Non, mais comme il l'a bien dit, Luis Enrique, il est irremplaçable d'un point de vue vraiment technico-tactique. C'est un joueur qui amène des différences déjà, bien sûr. C'est un mec qui étire les lignes, qui focalise l'attention. Donc forcément, si tu perds un joueur comme lui, un joueur de sa prestance, forcément, il va falloir remettre en place un nouveau projet de jeu, un nouveau plan de jeu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que Luis Enrique commence à faire progressivement. Il a commencé à le mettre en place avec les joueurs qu'il a sélectionnés, avec le style de jeu qu'il a mis, avec quelques matchs sans Kylian, justement. Ça se voit qu'il propose vraiment des choses pour l'année prochaine. Il pose des pierres, il pose des bases pour la prochaine saison. Et c'est vraiment intéressant parce que Luis Enrique, il est conscient du manque que Kylian va apporter, mais il est prêt pour ça. Il est prêt. Il a dit, hein, on va le remplacer par 2, 3, 4 joueurs. Bon, je pense pas qu'on aura besoin d'autant, mais des joueurs qui vont vraiment entrer dans son puzzle.
Il a été jusqu'à 6.
Donc, après.
C'est un message qu'il fait passer, à mon avis.
Ouais, mais après, il faut 6 joueurs pour remplacer un seul homme.
Je pense qu'au niveau budget, je pense que oui, Kylian, niveau salaire, niveau budget, il équivaut aussi à 6 joueurs aussi. Mais après, oui, il faudra justement trouver ces bons joueurs qui vont correspondre au style de jeu de Luis Enrique. Mais en tout cas, il m'a l'air. Il n'est pas soulagé, mais il m'a l'air quand même confiant pour la suite, Luis Enrique.
Il est soulagé. Je pense que c'est un problème en moins à régler. Footballistiquement, il n'est pas soulagé, mais politiquement, il est clairement soulagé. Sûr, c'est-à-dire que depuis le début, on lui a quand même mis l'épine Mbappé dans le pied. C'est-à-dire que lui, il voulait le prendre en tournée. Il ne vient pas en tournée. Il est dans le loft. Mmh. Après, il l'utilise. Il ne sait pas s'il peut l'utiliser. Une fois qu'il part, il l'utilise un peu moins. Donc non. Et sur Mbappé, le problème Mbappé, c'est aussi un problème comptable. Il y a 37 buts et 14 passes décisive de moyenne à aller chercher. Et aller ça, c'est sa moyenne sur ces 7 dernières années. Après, il y a différentes façons. Quand Arsenal, quand Aubameyang a un peu été mis de côté, on a pris Gabriel Jesus 6 mois plus tard, mais après, il y a d'autres joueurs qui ont dû step up et qui ont dû augmenter leur production. Il y a Saka qui est monté d'un cran. Ouais. Et on a demandé à Saka de jouer milieu gauche et de contribuer aussi offensivement. On a fait confiance à Martinelli, à Odegaard. Et pareil, quand Dortmund a perdu Haaland, Haaland est parti, bah, Bellingham, il est passé de 6 à 15 buts. Après, il y a eu Adeyemi qui a été recruté pour combler ça. Il y a eu Sébastien Haller. Malheureusement, il a eu son problème médical. Mais il n'y a pas une bonne façon. Mais c'est vrai que c'est la meilleure façon. Elle est collective. Et c'est de demander aussi aux joueurs ici de contribuer plus. Dembélé, 6 buts, c'est pas suffisant. Voilà. Le plus gros créateur d'occasion du championnat, c'est le meilleur passeur. Mais c'est pas suffisant.
Alors, attention, Kevin. Parce que si tu te bases sur Ousmane Dembélé pour aller te marquer les buts, je pense que tu vas te tromper.
Et plus que 6, pour le coup.
Oui, plus que 6, mais je suis pas sûr qu'il en ait.
Non, après, on va pas attendre de Dembélé qui soit le meilleur buteur de l'équipe, mais vraiment, qu'il augmente sa production en termes de statistiques.
Ça, c'est clair et net. Je suis pas sûr qu'il est capable d'augmenter sa production. Mais en tout cas, c'est sûr que, une fois qu'on a dit ce qu'on a dit pour faire le bilan du Paris Saint-Germain, faudra bien sûr très, très vite se projeter sur la saison prochaine parce que perdre Kylian Mbappé, c'est une chose, mais il va falloir avoir un mercato de toute autre facture que celui qui a été l'an dernier, parce que.
C'est ça l'échec du PSG cette saison.
Tu considères qu'il a été raté le mercato, Kevin?
Pas qu'il a été raté.
Il a été mal ciblé un peu.
Après, on sait comment sont les mercato. Hein,
il n'a pas été ciblé,
surtout. C'est pas facile.
En gros, t'as quoi? T'as deux grosses satisfactions, qui sont Dembélé et Barcola.
Oui.
C'est ça, en réalité.
Qui correspond,
à des degrés différents, mais quand même.
Qui correspondent le plus à ce que Luis Enrique veut mettre en place.
Exactement.
Tout simplement.
Sinon, le reste, les amis, Vitinha était arrivé avant. C'est la grosse satisfaction, d'ailleurs, à Luis Enrique, qu'elle a dit hier.
Skriniar,
c'est son meilleur joueur cette saison, c'est ce qu'il a dit.
Ouais. Ouais. D'accord.
Skriniar, c'est un échec.
Bah, c'est pas du tout adapté à Luis Enrique.
Ugarte est très mitigé.
Ugarte, c'est un échec. Moi, j'attends de voir encore Ugarte. Hein,
Non, mais après, de toute façon, on le sait que dans le mercato. Kanginli, c'est un genre de complément qui c'est un genre de complément qui est complètement Luis Enrique compatible. Ouais. Il vient d'Espagne, c'est un joueur technique qui est bon dans les petits espaces,
un joueur à sa main qui écoute.
Voilà, Asensio décevant aussi pour le coup.
Asensio décevant, mais est-ce qu'on croyait vraiment que Asensio, l'éternel remplaçant au Real,
pendant la saison,
allait devenir,
on a commencé à y croire à un moment quand il a une bonne période, hein.
Ouais, après David, tu parles de,
attention, c'est 10 millions de salaire par an, hein.
Ouais, après tu parles de productivité, tu parles de step up de certains joueurs, bah c'est là que Gonzalo Ramos sera important. Et c'est là on verra si vraiment il est fait pour.
Ah, moi j'ai absolument aucun doute sur Gonzalo Ramos, sur ses qualités en tout cas. Okay. Sur son utilisation un peu plus, mais sur ses qualités j'ai absolument aucun doute. D'ailleurs, je le mets absolument pas dans les flops.
Tu vois capable de produire 20 buts
Ah oui, toute compétition confondue, absolument. Absolument.
Il l'a déjà fait de toute façon. Donc c'est sûr que Gonzalo Ramos. Après, le problème qu'on a avec Gonzalo Ramos, c'est qu'on a l'impression que Luis Enrique apprécie beaucoup son profil, alors que pour le coup, c'est vraiment un attaquant qui joue au Benfica. Ça n'est que le Benfica, mais qui joue au Benfica face à des blocs bas et qui était quand même assez à l'aise pour se créer des occasions et pour les mettre au fond. Avec le Portugal, pareil. On l'a vu notamment en huitième de finale de Coupe du Monde. Donc, il n'y a pas que des ratés. Il n'y a jamais que des ratés quant à Luis Campos à la tête d'un mercato. Maintenant, il va falloir peut-être mieux cibler. Je ne sais pas si Luis Campos est en étroite relation avec Luis Enrique, mais en tout cas, les deux Luis, il va falloir qu'ils réussissent leur mercato.